Mon histoire des femmes, par Michel Perrault, 10e épisode.
Corps désiré. Le corps des femmes est aussi, au cours de l'histoire, un corps dominé, assujetti, souvent approprié, dans sa sexualité même. Corps acheté aussi, par le biais de la prostitution, dont je voudrais vous parler surtout. Mais bien d'autres points pourraient nous retenir. Par exemple, ce qu'on appelle le droit de cuissage médiéval, c'est-à-dire le droit que le seigneur aurait eu d'avoir la première nuit de noces d'une de ses serves quand elle se mariait. De ce droit, on a des traces juridiques, mais il semble que ça a été beaucoup plus mythique que réel dans son exercice. C'est du moins ce que dit Alain Bourreau, un historien très connu, qui conteste la thèse de Marie-Victoire Louis, qui a publié un livre très intéressant qui s'appelle « Le droit de cuissage, France, 1860-1930 ». Et alors Alain Bourreau montre que la construction de ce qui pour lui est un mythe fait partie plutôt de la dévalorisation du Moyen-Âge. Enfin, il y avait d'autres formes de domination du corps des femmes, par exemple le viol collectif en bande, qui est attesté comme une pratique assez usuelle des bandes de jeunes au Moyen-Âge. Le harcèlement sexuel, bien réel celui-là, dont étaient victimes plusieurs catégories de filles et de femmes. Servantes de ferme, petites bonnes de ville, Zola en parle beaucoup dans son roman Peaubouille, qui étaient en butte aux assiduités de leurs maîtres et patrons, et aussi des valets à la campagne, par exemple, avec parfois, dans les maisons bourgeoises, la complicité de la maîtresse de maison, qui préférait à tout prendre que leur fils jette sa gourme avec une jeune domestique, bien fraîche, venue de la campagne, plutôt qu'au bordel, où il risquait la syphilis. Les ouvrières, quant à elles, étaient exposées aux avances des contremaîtres, plus encore que des directeurs d'usines, qui étaient beaucoup plus lointains. À la fin du XIXe siècle, les journaux ouvriers du nord de la France, je pense le Forçat, le Cri du Forçat, c'était leur titre, ont des tribunes des abus où ils dénoncent les chiens couchants du capital, c'est comme ça qu'ils appelaient les contremaîtres, et leur lubricité. En 1905, dans une grande maison de fabrique de porcelaine à Limoges et à Villande, un fait de ce genre est à l'origine d'une des grèves les plus dures de l'époque que Clancier a raconté dans Le Pain Noir, qui a d'ailleurs donné lieu à un feuilleton télévisé. Dans tous ces cas, ce sont des filles jeunes en général, qui sont plus spécialement visées. Bien entendu, il faut tenir compte de l'hostilité des moralistes, mais aussi des ouvriers au travail en usine. Pour les femmes, Michelet disait « l'ouvrière, mot impie ». Et par conséquent, il est vrai qu'on noircissait parfois l'usine comme un lieu de perdition pour les femmes. Enfin, ce harcèlement sexuel dans l'espace domestique ou dans l'usine fait quand même partie des réalités d'autrefois et de maintenant. Les femmes battues, eh bien ça c'était dans leur ménage. Eh bien c'était sans doute une réalité encore plus massive que le harcèlement sexuel. En effet, battre la femme et les enfants, sa femme et ses enfants, était considéré comme un moyen quasi normal pour le chef de famille d'être maître chez lui, à condition qu'il le fasse avec modération. L'entourage tolérait cela, surtout pour les femmes réputées mauvaises ménagères. Alors celles-là, elles y avaient droit. Certaines femmes, d'ailleurs, se défendaient, comme le raconte Marguerite Audoux dans un de ses romans, L'atelier de Marie-Claire, où elle montre une des ouvrières qui, donc, quand elle arrive à l'atelier, se vante de ses pugilats avec son mari. Elle lui a bien rendu ses coups. Mais enfin, les coups étaient le quotidien de bien des ménages, pas seulement populaires. Et ça a été accru au XIXe siècle et au XXe siècle par le développement de l'alcoolisme, qui a évidemment développé la violence de ce point de vue-là. Cependant, la réprobation de telles pratiques est de plus en plus forte. D'abord pour les enfants, semble-t-il. Plus tardivement pour les femmes. Et on peut dire que la prise de conscience de la violence conjugale exercée sur les femmes est au fond assez récente. Et de ce point de vue, le rôle des associations et des maisons pour femmes battues, ouvertes depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années, est quelque chose d'important.
À Paris, les petites gigolettes gagnent de l'argent bien facilement. Elles ont du linge et des toilettes et même un petit appartement. Eh ben, moi j'ai jamais eu de veine, je ne turbine pas dans les grands prix et je carapate le long de la Seine entre Billancourt et Paris. Rôdeuse de berge au bord de l'eau, je trottine comme une petite grue et sous les ponts, si je fais le poireau, je ne me balade pas dans la rue. Si je frayais dans les quartiers riches, je pourrais me payer des kimonos. Au lieu de bâcher dans les péniches, j'irais pieuter dans les garneaux. Mais j'ai pas le rond, souvent je suis meule. Je bouffe pas tous les jours à ma faim. Et je vois devant moi comme ça toute seule, en chantant pour gagner mon pain. Rôdeuse de berge au bord de l'eau, je trottine comme une petite grue et sous les ponts, si je fais le poireau, je ne me balade pas dans la rue.
C'est de la prostitution, de la sexualité vénale dont je voudrais vous parler maintenant. Dans les conditions que je viens de décrire, la sexualité vénale serait presque un progrès, puisqu'elle se limite à la rémunération d'un service sexuel. Et c'est au nom de cela, la liberté du marché, que certains et certaines féministes aussi défendent le droit à la prostitution. Mais, greffée la plupart du temps sur la misère, la solitude, la prostitution s'accompagne d'une exploitation, voire d'une surexploitation du corps et du sexe des femmes, ce qui pose la question de la marchandisation du corps des femmes. Ceci dit, la prostitution est ancienne, je peux reprendre l'expression bien connue, le plus vieux métier du monde. Elle a été très générale, avec des statuts différents et presque toujours avec une hiérarchie et avec une réprobation variable, inégale, qui dépend au fond de la valeur donnée à la virginité et de l'importance accordée à la sexualité. Les civilisations antiques ou orientales n'ont pas du tout la même attitude que la civilisation chrétienne hantée par la chair. Je vous en donnerai un exemple dans le Japon médiéval. Jacqueline Pigeot a publié en 2003 chez Gallimard un livre qui s'intitule « Femmes galantes, femmes artistes dans le Japon ancien ». 11e, 13e siècle. Elle s'appuie sur une abondante documentation littéraire et quasi ethnographique. Ces femmes dont elle parle font métier de divertir les hommes par le chant, la danse, éventuellement le sexe. Mais elles ne sont ni enfermées ni stigmatisées. Elles viennent de milieux tout de même modestes et se recrutent souvent de mère en fille. Elles vivent de manière relativement libre et autonome, dans des groupes autogérés, mais assez hiérarchisés. Certaines sont de véritables artistes qui ont laissé un nom dans l'art de vivre, voire dans la création musicale et la mise en scène, et quelquefois même comme poète. Et Jacqueline Pigeot écrit « Moins de tabous sur le sexe, donc moins de dénigrement de la prostitution. » Mais Jacqueline Pigeot note la dégradation de la condition des courtisanes à partir du XIIIe siècle, notamment sous l'influence croissante du bouddhisme au Japon, un bouddhisme qui prône la pureté des corps, des hommes et des femmes, mais surtout des femmes. En Occident, la prostitution était beaucoup plus suspectée, tolérée sans doute comme un moindre mal, mais tout de même pas valorisée. Son essor accompagnait celui des villes considérables au XVIIIe siècle. Londres, Paris, Berlin étaient des capitales de la prostitution et on donnait des chiffres énormes, fantasmatiques même. En 1789, les prostituées défilent dans Paris en demandant la reconnaissance de leurs droits et la liberté de circulation, ce qui montre d'ailleurs une tolérance vis-à-vis de ces prostituées. Alors, elles ne l'obtinrent pas, cette liberté, au contraire. En effet, au XIXe siècle, la peur de la syphilis, un véritable fléau, conduisit au contraire à une complète réorganisation dans le cadre de ce qu'on va appeler le réglementarisme, réglementarisme préconisé notamment par un médecin, le docteur Parent du Châtelet, dont l'enquête qui s'appelle « De la prostitution dans la ville de Paris » qui a été publiée en 1836 est un classique absolument, un livre remarquable. Ce livre est d'ailleurs la principale source de Alain Corbin dans le livre qu'il a publié en 1978 et qui s'appelle « Les filles de noces ». Misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle, qui est un livre remarquable également. Alors, le texte de Parent du Châtelet est une formidable enquête médicale et sociale sur le recrutement, les pratiques, la vie quotidienne et la santé des prostituées. Parent du Châtelet a utilisé deux types de sources, les fichiers de la préfecture de police, qui étaient très précis, et son enquête personnelle. Il s'est rendu lui-même dans les maisons de prostitution, toujours accompagné, disait-il, parce qu'il ne voulait pas être suspecté de profiter de l'occasion. Parent du Châtelet décrit tout cela, mais en même temps, il préconise des remèdes, parce qu'il est médecin et qu'il veut juguler la prostitution. Et ce qu'il préconise, ce sont des maisons closes aisément repérables, avec des gros numéros, des lanternes rouges. Ce sont les maisons de tolérance. Et ces maisons sont gérées par des dames de maison, qui sont généralement d'anciennes prostituées. Ces dames de maison, tout à fait respectables, sont en cheville avec les autorités policières et médicales. Et elles sont des garantes de l'ordre. Il y a deux catégories de filles. Les filles en carte, autorisée et soumise au contrôle médical, et les clandestines. Et la police passe son temps à pourchasser les clandestines. Quand elles sont arrêtées, elles sont soumises à la visite, éventuellement emprisonnées, notamment à Paris, dans l'hôpital prison Saint-Lazare, qui est un haut lieu des filles de la prostitution.
C'est de la prison que je t'écris, mon pauvre Polyte. Hier, je ne sais pas ce qui m'a pris à la visite. C'est des maladies qui se voient pas quand ça se déclare. N'empêche qu'aujourd'hui, je suis dans le tas à Saint-Lazare. Mais pendant ce temps-là, toi, vieux chien, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux t'envoyer rien de rien, c'est la misère. Ici, tout le monde est décavé, la braise est rare. Faut 3 mois pour faire un lavé à Saint-Lazare. Vrai de te savoir, comme ça sans le sou, je me fais une bile. T'es capable de faire un sale coup, je suis pas tranquille. T'as trop de fierté pour ramasser des bouts de cigare. Pendant tout le temps que je vais passer à Saint-Lazare.
Alors, au XIXe siècle, la prostitution est un monde en expansion, avec une diversification considérable de l'offre des maisons de rendez-vous qui s'opposent aux maisons d'abattage, avec des filles de tous âges qui circulent entre les lieux et aussi entre Paris et la province. Et à la fin du XIXe siècle, tout cela est considérablement étendu par la traite des Blanches. Et puis, ce modèle a été exporté. Et il a été exporté dans toute l'Europe et également dans les colonies. Christelle Tarot, dans un livre qui s'appelle « La prostitution coloniale, Algérie, Tunisie, Maroc », qui est paru chez Payot en 2003, montre que la colonisation n'a pas vraiment importé la prostitution. Elle existait, la prostitution. Mais elle l'a infléchie considérablement par la réglementation et le renfermement. Par exemple, elle décrit au Maroc, près de Casablanca, le quartier de Bouzbir, qui est un quartier entièrement fermé et contrôlé, avec toute une hiérarchie. Et tout cela a été décrit d'ailleurs par Germaine Aziz, qui est une ancienne prostituée marocaine. Alors on peut, pour finir, se poser la question, quelle a été l'attitude des féministes devant la prostitution, des femmes et des féministes devant la prostitution? Les femmes, bien sûr, réprouvaient la prostitution. C'était pour elles quelque chose d'abominable. Et les féministes, eh bien, leur attitude a été assez complexe. Flora Tristan a beaucoup dénoncé la prostitution dans un livre qui s'appelle « Promenade dans Londres » et où elle a montré les quartiers, les maisons de prostituées comme les lieux les pires pour les femmes. Et puis, en Angleterre aussi, il y eut Joséphine Butler. Joséphine Butler, elle était abolitionniste au nom de la pureté. Et c'est à elle que l'on doit, en 1888, une gigantesque manifestation de femmes dans les rues de Londres, au nom de la pureté, où elle réclamait l'abolition totale de la prostitution. Généralement, le protestantisme a été plus actif dans le domaine de la prostitution que le catholicisme. Par exemple, en France, des femmes suisses, notamment, et bien d'autres, ont fondé une œuvre qui s'appelle l'œuvre des libérés de Saint-Lazare, et ces femmes étaient très actives pour la protection de la jeune fille, l'œuvre des gars, l'accueil des femmes qui sortaient de Saint-Lazare. Maintenant, si on saute par-dessus les décennies, voici 1975, mouvement des femmes, féminisme, et en même temps mouvement des prostituées, notamment à Lyon, où l'église Saint-Nizier a été le centre de mouvements de revendication des prostituées. Eh bien, les féministes, à cette époque, soutiennent les prostituées au nom des droits des prostituées. Les prostituées, nos sœurs, qui ont droit à la sécurité sociale, bien sûr, et à la défense de leur métier. Aujourd'hui, en 2002, les féministes sont divisées. Il y a celles qui voient dans la prostitution, au fond, un métier et une condition qui n'est pas pire que les autres formes d'assujettissement et de domination des femmes. Après tout, les femmes ont le droit de disposer de leur corps, de le vendre et d'avoir des droits à ce sujet. Et puis, il y en a d'autres qui considèrent que les structures de la prostitution sont tout de même des structures de trafic et de surexploitation. Il y a notamment tous les réseaux qui exploitent les femmes de l'Europe de l'Est, les femmes du monde oriental, le fameux paradis thaïlandais qui aujourd'hui nous apparaît comme si proche de l'enfer. Et contre cela, il semble qu'il faille se battre et en tout cas insister pour que ces femmes soient défendues. Conclusion, on voit que dans la prostitution, le corps des femmes est un objet, un enjeu, et que les droits des femmes dans ce secteur apparaissent comme particulièrement difficiles à analyser et à défendre.
Histoire des femmes par Michel Perrault. Réalisation Pierrette Perronneau.